Alors, une série de chroniques, les femmes sont des hommes comme les autres ou pas, sont des chroniques qui vous proposeront tout au long de la semaine des chroniques sur des femmes ou des groupes de femmes ou encore des événements ayant trait au féminisme ou aux droits des femmes. Alors aujourd'hui, Madeleine Pelletier, qui c'est qui est vous connaissez Madeleine Pelletier?
Non.
Eh ben, je vais vous l'expliquer. Alors, tout d'abord, j'aurais pu tomber amoureuse de Madeleine Pelletier. Non pour son physique de butch avant-gardiste, mais plutôt pour son cerveau, assez bien fait ma foi. Et oui, bon, d'accord, aussi peut-être en raison de son engagement anarcho-féministe. J'aurais pu, car en effet, c'est trop tard, et comme je suis ni gérontophile ni nécrophile, Madeleine Pelletier s'est malheureusement en fait éteinte en 1939.
Madeleine Pelletier, qui fut une des femmes militantes parmi les plus atypiques et intéressantes du XXe siècle. Elle s'autorisa, avec un immense courage, toutes les provocations et transgressions intellectuelles, politiques et sexuelles contre les normes très étriquées de son temps. Écoutez.
Alors en tout cas, c'est un sacré personnage qui passe sa vie à lutter pour une égalité homme-femme. Et pour ce faire, elle va développer une politique basée sur l'éducation, mais pas uniquement. Elle prônera aussi la virilisation des femmes, s'habillant elle-même en homme durant toute sa vie. Et elle l'a même dit « Ah, que ne suis-je un homme, mon sexe est le grand malheur de ma vie ». Tout est dit. Alors, Madeleine Pelletier voit le jour à Paris, dans un milieu ouvrier pauvre, en mai 1874. 100 ans avant moi. Ça, on s'en fout. Elle quitte assez vite l'école, mais se construit du coup politiquement en fréquentant dès l'âge de 13 ans des réunions politiques. Alors, elle rejoint dès 15 ans des cercles anarchistes, et donc de cette construction politique, elle va en tirer la certitude que l'éducation est à la base de l'émancipation des classes laborieuses et des femmes aussi. D'ailleurs, elle va reprendre ses études et passera son bac à passer 20 ans. Et puis, elle entamera des études de médecine et d'anthropologie. Et elle sera d'ailleurs la première femme médecin diplômée en psychiatrie en 1906. Alors, au niveau de l'anthropologie, elle va s'intéresser à la théorie des mesures crâniennes. Tiens, on en a parlé tantôt. Réfutant le postulat selon lequel les femmes sont inférieures aux hommes car elles ont un crâne plus petit. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Alors on va quelque peu passer son parcours biographique qui est fait de rencontres tant politiques que franc-maçonnes ou encore féministes. Et nous allons nous baser essentiellement sur ses combats féministes et au-delà. Et penchons-nous sur son concept de la virilisation des femmes.
La sensibilité ne devra pas nécessairement être bannie. Elle est une marque de supériorité intellectuelle, mais on en réprimera les manifestations extérieures. La mère habituera sa fille à retenir ses larmes. Elle lui fera une honte de pleurer. Lorsque l'enfant aura atteint la 12e année, âge où on commence à comprendre, elle lui montrera quelle source de chagrin est la sensibilité qui infériorise l'individu dans la lutte pour la vie en faisant de lui la dupe de ceux qui ne sont pas sensibles. Elle commencera à lui montrer la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un champ clos, et on l'incitera à s'armer d'énergie pour en sortir victorieuse. La mère habituera l'enfant à supporter la douleur physique. Si la petite fille pleure parce qu'elle s'est cognée, elle lui fera honte de sa faiblesse. Il est absurde, en effet, de prétendre que la femme possède des qualités spéciales d'administration et de gouvernement qui font défaut au sexe opposé. En général, la femme est meilleure que l'homme, moins portée que lui aux actes criminels ou simplement immoraux. Mais cela tient à sa situation spéciale et en dehors de la lutte. Dès que l'égalité sexuelle sera conquise, la femme, au combat de la vie, contractera cette dureté de cœur, apanage jusqu'ici de l'autre sexe. Frappée, elle frappera, blessée, elle blessera, spoliée, elle spoliera. Ce n'est pas sur un bien social plus grand que doivent s'appuyer les revendications féminines. Leur justification n'a pas besoin d'être recherchée en dehors d'elle, elle la porte en elle-même.
Alors ça, c'était donc un extrait de L'éducation des filles, un ouvrage que Madeleine Pelletier a publié en 1914. Alors donc, elle souhaite de ses voeux les plus chers une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Et évidemment, cela passe par l'éducation, comme on a déjà pu le dire et comme on a pu l'entendre. Même si parfois, son idée de l'éducation est quand même un peu...
particulière.
Parti. Trash. Et bon, c'est l'époque aussi, on va dire. Hein. Hop. Et donc, d'abord, Madeleine Pelletier sera suffragette. Et dans ce cadre, elle suit avidement et avec admiration aussi les suffragettes américaines et britanniques. Les Françaises sont pour elle trop molles. Et elles ne vont pas assez loin dans leurs revendications. Et surtout, n'engagent pas d'action d'éclat, de coups de force. Parce que pour elle, tout passe par l'action, par des coups de force. Elle a explosé des vitrines avec des coups de pavé. Enfin. Mais donc, Madeleine Pelletier reste quand même une suffragette. Elle prône en effet le suffrage universel pour les femmes. Car en effet, le suffrage universel fut introduit en France à la Révolution française, mais il fut supprimé lors du Directoire, donc Directoire c'est un peu sous Napoléon, pour être réinstauré lors de la Révolution de 1848 et lors de la Troisième République. Mais quand on parle de suffrage universel, le droit de vote pour tous les citoyens, on en exclut les femmes. Il est universel exclusivement pour la gente masculine. Et à la fin du XIXe siècle, des mouvements féministes naissants vont en faire une revendication centrale. On parle alors de féminisme de première vague, qui réclame donc le droit de vote, mais aussi une amélioration des conditions de travail et le droit à l'éducation pour les femmes et pour les filles. Voilà, mais revenons à Madeleine Pelletier. Par ses actions, elle réclame donc une égalité complète entre les sexes, y compris pour le service militaire. Parce que souvent les gens vous disent « Ah bah oui, vous les féministes, vous êtes... c'est malin d'être féministe actuellement, vu qu'il n'y a plus de service militaire ». Ah ben voilà, les féministes sont, enfin, veulent l'égalité, mais donc aussi pour le service militaire. Et si les femmes sont aptes à défendre la patrie, on ne pourra pas leur refuser leurs droits. Donc si elles font le service militaire, elles pourront voter. Et donc cette égalité passe aussi pour elles par le vêtement. Et on l'a dit en début de cette chronique, Madeleine Pelletier s'habillera toute sa vie en homme, costume trois pièces, cheveux courts, chapeau melon et revolver dans la poche.
Terrible.
Et elle le fait sans permission de travestissement.
Je vois avec plaisir notre consoeur, la lutte féministe, faire campagne pour la virilisation du costume. Que vous êtes heureuse de vous être affranchie du costume, me disait autrefois Hubertine Auclair. Comment heureuse? Mais si vous trouvez que c'est un avantage, faites-en autant. Elle n'en fit rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Souvent, les personnes qui se montrent hardies par un côté croient devoir racheter leur audace en restant timides pour tout le reste. Je dois dire d'ailleurs que j'ai eu toute ma vie à payer très cher l'affichage vestimentaire de mes convictions féministes. Et j'ajouterais que c'est dans les milieux dits « avancés » que l'on me fit le plus de critiques. Alors, ma clientèle médicale acceptait mes cheveux courts et mon costume tailleur. Les socialistes, voire les féministes, ne pouvait pas les encaisser. « Il faut changer votre costume, me disait Hervé. Autrement, vous n'avez pas d'influence. Voyez Louise Michel, elle s'habillait comme toutes les femmes. » C'était de sa part une faiblesse que je n'imiterais pas. « Devrais-je, comme vous le dites, perdre toute influence? Je ne m'abaisse pas jusqu'à la sottise humaine. Tant pis pour elle, si elle refuse de me comprendre, je ne m'habillerai pas en asservie. » Le costume provoquant que portent les femmes est le symbole de l'offre permanente qu'elles font de leur personne à l'autre sexe. Comme la déformation du pied des Chinoises, il est la marque d'un esclavage ignominieux. Si je m'habille comme je le fais, c'est parce que c'est commode, mais c'est surtout parce que je suis féministe. Mon costume dit à l'homme « je suis ton égal ». Les hommes le comprenaient bien et c'est pourquoi ils ne voulaient pas l'admettre. Leur blâme multipliée me toucha, je me fis faire un costume masculin et je le portais. On m'a assuré que cela ne m'allait pas mal. De la toilette. L'homme s'habille pour la vie, la femme s'habille pour l'amour. Devant la glace de son cabinet de toilette, alors qu'il dispose cheveux et moustaches, l'homme n'est pas sans songer à l'effet qu'il produira sur les femmes. Mais si l'amour entre en ligne de compte, dans l'ordonnance de sa figure et de sa cravate, le reste de son ajustement est fait avant tout pour la vie. Il est d'abord un individu. Sa fin est en lui-même. Il s'agit donc pour lui, avant tout, d'être vainqueur dans le combat de l'existence. Aussi, son habillement vise-t-il à la commodité. L'étoffe s'adapte au corps, les membres libres peuvent exécuter sans gêne tous les mouvements. L'élégance ne lui est pas indifférente, mais il préfère laisser à son tailleur le soin d'y penser pour lui. Pourvu que ses habits soient à l'unisson de son milieu social, il est satisfait. Parmi les hommes, certes, il en est qui se préoccupent davantage de leur extérieur, qui cherchent des coupes excentriques, des cravates à effet, qui passent de longues minutes à se faire une tête. Mais le reste du sexe les blâme, et pour leur montrer le mépris qu'il lui inspire, il les traite d'efféminés, d'hommes qui sont comme les femmes. À mesure que grandit pour elle sa place dans le combat de la vie par la force des choses, la femme cesse de s'habiller uniquement pour l'amour. Les vertus gadins, les crénolines, les larges robes incommodes ont disparu pour faire place aux costumes tailleurs corrects à jupe collante. Au chapeau chargé de falbala, on préfère le feutre souple avec un simple ornement. C'est plus pratique pour aller par les rues. On peut plus facilement l'enlever, l'accrocher à une patère. Disparu aussi les dessous compliqués, les multiples jupons empesés où nos grands-mères perdaient leurs jambes. La culotte de jersey, dont l'usage se généralise, permet de se passer de jupons. Et beaucoup de femmes d'aujourd'hui, ou bien s'en passent en effet, ou bien n'en mettent plus qu'un. Je surprendrai certainement plus d'un lecteur et plus d'une lectrice quand je leur dirai que loin de pousser à cette évolution, les militantes du féminisme, bien au contraire, la combattent. J'étais navrée, je l'avoue, lorsque je vins au féminisme actif, de voir devant moi ces visages peints, ces têtes ornées de fleurs et d'oiseaux tantôt frais, tantôt fanés, selon la bourse de leurs propriétaires. Je me sentais prise de honte d'appartenir à un sexe aussi frivole. Quelle honte, en effet, de mettre en un autre la raison de sa vie, de passer des heures à se faire le visage, des journées à combiner, souvent pour le résultat le plus inesthétique, la couleur d'une étoffe à celle d'un ruban. La femme qui fait ainsi n'est pas une personne, c'est une poupée, une marionnette. Elle n'est pas à elle, elle est à celui qui la voudra pour le temps qui la voudra. On l'appelle femme de luxe, par analogie au chien de luxe. Et que dire des vieilles au visage plâtré, aux lèvres peintes, dont le sourire de serve semble implorer le sexe orgueilleux ? Ne suis-je pas encore désirable ainsi ? Certes, il ne saurait être question de bannir l'amour, sans l'amour pas d'humanité, mais l'amour doit être dans l'égalité et non dans l'offrande de la femme à l'homme. Une belle tête ne perdra rien de son charme pour ne pas être adornée d'oiseaux. Pas plus que l'amour, le féminisme ne proscrit l'élégance. Nos adversaires le prétendent, mais que ne prétendent-ils pas ? Un costume tailleur bien fait est beaucoup plus élégant qu'une robe chiffonnée, même par la bonne faiseuse. La femme qui le porte donne l'aspect d'une personne, d'un être pensant et voulant. La robe à franfeluche ne fait songer qu'à la ménagère quand c'est une robe bon marché, à la courtisane quand c'est une robe chère. Les féministes, nous l'avons dit, se montrent rétrogrades dans leur ajustement. Loin de devancer la masse des femmes, elles restent en arrière. Cela, au fond, s'explique. Le sexe esclave est naturellement le sexe timide. Et le fait de revendiquer des droits apparaît tellement osé aux revendicatrices elles-mêmes qu'elles veulent racheter leur audace en se montrant, pour tout le reste, plus féminines que les femmes qui ne formulent point de revendication. Les groupes féministes qui s'occupèrent de la réforme du costume, aboutirent à un résultat de beaucoup inférieur à celui de la mode, laquelle est malgré tout forcée de s'inspirer un peu des nécessités de la vie. Elles bannirent totalement le corset et adoptèrent la robe peignoir. J'ai vu, il y a quelques années, dans un congrès d'Allemagne, des femmes vêtues du costume réformé. C'était affreux. Sous l'étoffe mince, des chairs flasques pendaient. Les obèses, le ventre proéminent, les seins tombés, avaient l'air d'allaiter des douzaines de nourrissons. Il est bon de répudier la poupée, mais il ne faut pas lui substituer la femelle animale. On n'allaite pas un congrès. Je ne saurais trop vous le répéter, mesdames, la femme ne s'émancipera qu'en se virilisant. Et n'allez pas prendre la tangente en disant que le costume n'a pas d'importance, il en a beaucoup au contraire. Ce n'est pas sans raison qu'on met un uniforme aux soldats, un habit aux religieux. On habille ces hommes de manière semblable, tout au moins dans l'ordre d'idées auquel l'uniforme correspond. Un esprit indépendant, une volonté puissante ne saurait habiter des oripeaux de dentelle. Sous un bonnet de grand-mère, seule une pensée défaillante peut s'abriter. Ayez donc le courage, mesdames, d'être ce à quoi vous aspirez. Docteur Madeleine Pelletier.
Elle n'est pas triste, hein, la nana. Et donc c'était de nouveau un extrait des écrits de Madeleine Pelletier, et là je les ai sortis, bah, comme tantôt d'ailleurs aussi, d'une émission de France Culture. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la permission de travestissement, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Eh bien oui, à la fin du 19e siècle, on ne s'habille pas comme on veut dans l'espace public, et les femmes ne peuvent pas s'habiller en homme par exemple, et ne pas évidemment porter le pantalon. On en parlera vachement plus longuement demain, mais je vous explique déjà en deux mots. Donc on ne peut pas porter le pantalon quand on est une femme, et si on veut, eh bien il faut une autorisation, un document officiel délivré par la préfecture de police, ça se passe en France bien entendu. Et donc c'est une ordonnance du 16 Brumaire de l'an 9, autrement dit du 7 novembre 1800, au début du consulat, donc sous Napoléon Bonaparte. Cette autorisation permet ainsi aux femmes de s'habiller en homme, et encore pas dans les théâtres par exemple, et ce n'est pas une autorisation à vie, il faut la renouveler tous les 6 mois, et il faut d'ailleurs une bonne explication, une bonne raison pour y accéder. Alors juste pour l'anecdote, cette ordonnance a été abrogée le 31 janvier 2013.
Waouh.
Donc jusqu'en 2013, les femmes étaient censées ne pas porter le pantalon en France. C'est quand même aberrant. Et donc, a priori, il était jusqu'à cette date interdit pour les femmes de porter le pantalon. C'est fabuleux. Mais bon, pour cette petite anecdote pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Ah bah oui, demain, je l'écris avant d'écrire l'autre. Sachez seulement déjà que c'est le ministère français des droits des femmes qui a constaté l'abrogation implicite, donc en fait elle est toujours notée, de l'ordonnance en raison de son incompatibilité avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Non, sérieusement. Ils sont sympas les Français quand même. Donc, Madeleine Pelletier, il y en a un justement en face de moi. Donc, Madeleine Pelletier n'a pas cette autorisation et n'en sera d'ailleurs jamais inquiétée. Comme quoi, cette autorisation, c'était quand même un peu ballot, quoi. Il faut dire qu'avec l'évolution des mœurs, entre autres, même si cela fait sourire, l'arrivée de la bicyclette. Bon, on vous en parlera un autre jour aussi. Cette ordonnance tombe un peu dans les oubliettes, ressortie juste en 1930. 1930, là, bingo, on ressort cette ordonnance pour le procès de Violette Maurice. Oh, encore une histoire qu'on va raconter un autre jour. C'est fabuleux, Violette Maurice, c'est un phénomène. Madeleine Pelletier, à côté, c'est cacahuète. Bref, pour Madeleine Pelletier, s'habiller en homme est une façon de ne pas se subordonner en tant que femme. En effet, les femmes dans la société sont subordonnées aux hommes dès leur naissance, parce que, simplement, ce sont des femmes. Voilà.
Bien sûr.
Faut même pas réfléchir pour le moment. Et par cela, Madeleine Pelletier sera l'une des premières féministes à aborder la question du genre à cause de l'inégalité des sexes. La société établit un universel masculin dominateur qui amène le féminin à n'être qu'une particularité inférieure. Voilà en tout cas ce qu'elle dit. Et elle prône donc l'autonomisation des femmes en passant, pourquoi pas, par la destruction du mariage et de la famille pour les remplacer par une vie communautaire.
Bonne idée.
C'est un peu bouleversant à l'époque, mais alors là, aujourd'hui, je pense que là, on nous sortirait aussi plein d'autres choses. Alors là, je vous invite encore à écouter un petit son, donc toujours sorti des émissions de France Culture. C'est bien France Culture.
Je ne me marierai pas, et il est probable que je ne prendrai jamais d'amant, parce que, dans les conditions actuelles, les relations sexuelles sont une source de diminution pour la femme qui est mariée, et de mépris pour celle qui ne l'est pas. Ma virginité n'est pas une cause de souffrance, et je suis convaincue d'avoir ainsi choisi dans la vie la voie qui me convient le mieux. Mais une telle manière, vous le comprenez, ne peut être prêchée comme définitive. Elle n'est que la conséquence de la situation injuste qui est faite à la femme.
Ah ben voilà, donc son militantisme féministe va jusqu'à ce point la virginité, ce qui fait d'elle une féministe plus que radicale, prenant l'action plutôt que les paroles. Et les actes, enfin des actes, elle n'en a pas fait beaucoup. Enfin des actes sexuels, puisque, bon bref. Son positionnement pour la virilisation des femmes nous amène à une question fondamentale du ou des féminismes. Est-ce que la libération des femmes c'est le devenir homme, l'alignement des femmes sur la société telle qu'elle existe ou sa transformation. Et la Madeleine Pelletier est donc plutôt dans l'optique de l'assimilation des femmes, c'est-à-dire donner l'accès aux femmes à toutes les pratiques qui sont celles des hommes, l'alignement des femmes sur les avantages et les dérives du monde masculin. Ce qui est un peu éloigné aujourd'hui des féminismes actuels. Alors, autre positionnement de Madeleine Pelletier, c'est l'avortement. Alors, pour elle, la liberté des femmes passe par l'éducation des filles, dont compris l'éducation sexuelle complète, et aussi une liberté sexuelle égale à celle des hommes. De là découle évidemment le droit à disposer de son corps. Et en tant que médecin, Madeleine Pelletier en pratiquera en secret dans son cabinet, des avortements bien entendu, et ce sera ce qui la fera tomber. Alors, pour en revenir à quelques repères biographiques de Madeleine Pelletier, en 1937, elle sera victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui la rendra hémiplégique, mais ça n'empêchera pas de poursuivre ses combats idéologiques. Et en 1939, elle sera inculpée comme faiseuse d'anges, autrement dit comme avorteuse. Alors clairement, même si elle en a pratiqué durant de longues années, celui pour lequel elle est accusée ne tient pas la route compte tenu de son état physique, mais néanmoins, elle sera condamnée.
Premièrement, la doctoresse Pelletier doit être considérée comme étant en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal. Deuxièmement, elle présente une hémiplégie droite avec contraction qui la rend totalement impotente. Elle a des troubles du jugement qui annoncent un début d'affaiblissement intellectuel artériosclèreux. Actuellement, elle doit être considérée comme entièrement irresponsable de ses actes. Troisièmement, l'effet de son inculpation montre qu'elle peut être encore une cause de trouble pour l'ordre public et de danger pour la sécurité des personnes. Ce sont les conditions nécessaires pour que soit prise un arrêté de placement d'office.
Et donc, Madeleine Pelletier sera internée dans un hôpital psychiatrique, là où elle a fait une partie d'ailleurs de son internat lors de ses études. Elle va y mourir le 29 décembre 1939, des suites d'un nouvel AVC. La fin de Madeleine Pelletier.
Voilà comment en France on traite les femmes qui se distinguent au point de vue intellectuel. Ariely s'est suicidée, et moi je suis dans une maison d'aliénés. Venez me voir, je vous en supplie. Mon état général est mauvais, j'ai des occlusions intestinales à chaque instant, je ne peux manger la nourriture d'ici, j'en suis réduite à un peu de lait et de pain et de la purée. Venez jeudi, on permet que j'écrive mes mémoires. Bonnes amitiés, le docteur Pelletier.
C'était donc l'histoire de Madeleine Pelletier, donc internée finalement en hôpital psychiatrique. Et on parle d'Ariely dans ce petit son que vous avez entendu. Ariely était une de ses correspondantes. Elle a correspondu avec elle quasi durant toute sa vie d'adulte, féministe également, qui partageait quand même pas mal de ses idées. Voilà donc pour Madeleine Pelletier, premier épisode. Donc, les femmes sont des hommes comme les autres ou pas ?